va s'afficher. Nous allons lire dans quelques instants ensemble le psaume 23. Si vous voulez déjà préparer vos Bibles, nous avons commencé la semaine dernière notre thématique « Il restaure mon âme ». Et nous avons vu dans un premier temps la nécessité, nécessaire signifie indispensable aux besoins de la vie, la nécessité d'une restauration totale. Parce que nous avons pris le temps de considérer ce principe vital, parce que c'était le vécu de Joseph, c'est que sans restauration, il ne peut pas y avoir d'avenir. Oui, Dieu a un avenir pour chacun de nous, pour toi, pour moi, et Dieu donne dans sa grâce, il a la puissance, la capacité, il a même déjà prévu un avenir pour ceux qui n'en ont pas, pour ceux qui n'en ont plus. Mais en réalité, on s'est aperçu qu'il fallait absolument qu'il y ait Manassé, le miracle de Dieu dans le cœur de Joseph. Dieu m'a fait oublier, il a effacé la peine, on a compris maintenant, effacé la peine de toutes mes peines et de toute la maison de mon père, et il a fallu cette restauration complète pour qu'ensuite puisse venir Éphraïm. Pourquoi il faut cet ordre logique, cet ordre chronologique? Parce que le passé, bien aimé, il faut en avoir conscience, Dieu est tout puissant, amen, mais le passé est une puissance, il n'est pas tout puissant, mais le passé est une puissance, et c'est une puissance réelle, c'est une puissance d'égarement. Et tant qu'on n'est pas totalement guéri de notre passé, tant que notre passé n'est pas totalement cicatrisé, eh bien de toute façon, inconsciemment, alors que Jésus est notre sauveur, malheureusement il n'est pas notre berger, parce que ce n'est pas lui qui conduit, ce sont nos blessures. Et consciemment ou inconsciemment, c'est carrément notre identité. C'est notre nature, c'est notre identité d'enfant de Dieu qui est faussée, qui est dénaturée. Et puis, c'est aussi ce passé qui, en dénaturant notre identité d'enfant de Dieu, va aussi nous conduire. Et je me retrouve conduit alors que je prie Jésus. Mais en réalité, ce sont mes peurs, mes inquiétudes, mes blessures, mon deuil, mes peines, mes souffrances. Parfois pour certains du ressentiment, de l'amertume, pour d'autres de la colère, de la rancœur, etc., qui vont me diriger. Et nous avons vu la semaine dernière, bien aimé, que d'une façon ou d'une autre, dans cette vie, ici-bas, les blessures sont inévitables. Puisque les blessures sont inévitables, mieux vaut connaître et comprendre les chemins de la restauration afin de les pratiquer et de ne pas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. On lit ce matin ensemble dans le psaume 23, un psaume qui est très connu et très peu connu. Beaucoup de gens connaissent le psaume 23, beaucoup de chrétiens pourraient même réciter le psaume 23 par cœur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si vous connaissez le psaume du berger. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est votre connaissance exacte du berger dont il est question dans le psaume. Et c'est tout ce qu'on va voir et ce qu'on va développer ensemble dans les semaines qui viennent. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Bonjour frères et sœurs, nous sommes le dimanche 14 septembre. Bienvenue dans notre rassemblement pour célébrer le Seigneur. Le culte a commencé, bienvenue. Je ne manquerai. Ah, bonjour, ça fait plaisir quand vous êtes là. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton, me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Nous allons beaucoup nous intéresser dans les temps qui viennent au berger du psaume et aux différents chemins qui sont présentés ici, des chemins de restauration. Vous savez, comme je vous l'ai dit, qu'il existe évidemment des chemins de restauration, mais s'il existe de vrais chemins, il existe aussi de faux chemins de restauration, et c'est tout ce qu'on verra ensemble. Si on a vu la dernière fois la nécessité d'une restauration, ce matin, je veux vraiment partager ça avec vous, et que chacun soit bien imprégné de cette pensée. Ça peut paraître très simple, à la limite même un peu bête, mais quand je commence une thématique, je la commence toujours au début du début. Et je vais vous montrer que, oui, on sait que Dieu est le seul qui restaure, mais nos comportements quotidiens nous disent le contraire. Nous ne le savons pas tant que ça. Ce que je veux partager avec vous ce matin, c'est que Dieu seul, lui et personne d'autre, peut te restaurer. Je vais vous prêcher un message en trois points. Mon premier point, c'est « Il restaure mon âme ». Mon deuxième point, c'est « Il restaure mon âme ». Et mon troisième point, c'est « Il restaure mon âme ». On ne sait pas dans quel contexte, vous savez, je vous le dirai souvent, je vous l'ai déjà dit, je le dirai souvent, on ne sait pas dans quel contexte exact, parfois les psaumes précisent dans quel contexte les psaumes ont été inspirés, écrits. Là, le texte ne le dit pas explicitement. Certains théologiens ont voulu raccrocher ça à un épisode où David était poursuivi par Saül. Est-ce que c'était pas plus tard avec la révolte d'Absalom ? En réalité, c'est peut-être un petit peu, sans être méchant, c'est peut-être un peu caricatural. Le texte ne le dit pas. Par contre, quand David dit « Il restaure mon âme », il sait de quoi il parle. Et c'est toujours, ce sont toujours les contextes, soit immédiats ou les contextes de vie qui nous renseignent. Avant d'aller plus loin, on réfléchit aux différents contextes de vie, aux différentes blessures auxquelles David a été exposé. Et si on regarde un bref, il n'a pas passé toute sa vie dans la souffrance, on est d'accord, hein, mais si on regarde un bref aperçu de la vie de David, quand il est jeune, effectivement, le prophète Samuel vient, il est oint pour roi. Déjà, je ne l'ai pas mis ici, David et ses frères, ce n'est pas le top du tout. Les sept premiers, Eliab, Shammah, etc., sont des orgueilleux. Le vieux papa Isaïe, il est bien gentil, mais il a oublié qu'il avait un huitième fils. Vous voyez, Isaïe, c'est le genre de gars, il a tellement d'enfants, il a fini par en oublier un au rayon surgelé. Il dit, il y a un huitième, excuse-moi Samuel. Il est là-bas, lui, de toute façon... Et dès sa jeunesse, il est méprisé parce que lui, il garde les troupeaux. Pourtant, c'est sur lui que Dieu avait porté son cœur et c'est lui que Dieu avait choisi. Donc déjà, dès sa jeunesse, je ne l'ai pas mis, il est méprisé, l'ambiance familiale est moyenne. Saül, qui va devenir son beau-père, parce que Michal, la fille de Saül, va devenir l'épouse de David. On sait très bien que pendant longtemps, Saül, par jalousie, parce que c'est un orgueilleux, c'est un type du leader religieux devenu rétrograde, qui à la limite n'en a plus rien à faire ni de Dieu ni de son peuple, va s'enfoncer de plus en plus jusqu'à ce qu'un jour, malheureusement, il se suicide. Et Saül va chercher à tuer David à plusieurs reprises et David va être obligé d'être en fuite pendant plusieurs années. À un moment aussi, Saül va avoir cette brillante idée de reprendre en quelque sorte sa fille Michal et de la donner à un autre. Ça fait mal. Et c'est David, dans le deuxième livre de Samuel, qui va ensuite récupérer Michal. Mais il y a des années de souffrance ici. Et puis il y a son ami Jonathan qui était, il s'est écrit, il l'aimait comme son âme, ils étaient comme des frères, ils avaient une relation qui était réellement forte, ils étaient unis vraiment, c'était comme son frère, il l'aimait comme son âme. Et un jour Jonathan, est mort au combat. Et David, après avoir été persécuté, après avoir été trompé, va aussi passer par le deuil. Il va perdre son ami le plus proche. Et puis, dans la famille de David, un jour, Amnon, qui était un être, c'était un des fils de David, mais qui était un être abject, abominable, Amnon a eu la merveilleuse idée de violer sa sœur, Tamar. Ah ouais, eh oui. Je vous dis pas l'ambiance au repas de famille, hein. C'était lourd. Absalom n'a rien trouvé de mieux à faire que de faire taire Tamar. Il dit, prends pas la chose trop à cœur hein, quand même, c'est bon, ça va, c'est ton frère. Mais Absalom, il nourrit quand même du ressentiment envers Amnon. Et puis il a la merveilleuse idée de faire exécuter son frère Amnon. Donc la fille de David se fait violer par un de ses fils, et un autre fils va tuer le fils qui est responsable du viol. C'est lourd, hein ? On ne s'ennuie pas quand on lit la Bible, hein ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et puis ensuite, Absalom, comme si ça ne suffisait pas, il va vraiment comploter contre son père, il va manipuler les conseillers, il va manipuler le peuple. Et puis Absalom, qui est aussi un type de l'orgueilleux, de celui qui s'élève, qui veut prendre une place qui n'est pas la sienne, orgueil, insoumission. Absalom va vraiment mettre en place un coup d'État. Il va même retourner à Achitophel, qui est le premier, le confident, qui est un conseiller très proche de David, si ce n'est même son premier conseiller. Et Absalom va aussi chercher, par une folie d'orgueil, et parce que c'est un mégalomane, il va chercher à tuer aussi son propre père. Et puis David, ici, non seulement est trahi par son propre fils, mais il est aussi trahi par son proche conseiller Achitophel. Et puis, alors que David reste quand même plein d'amour pour son fils Absalom, parce que, c'est vrai, nos enfants, il y a des moments, ils vont dire, nos enfants, c'est incroyable. Hein. Mais nos enfants resteront toujours nos enfants. Et pour David, Absalom restera toujours son fils. Et lorsque la bataille fait rage, David donne des instructions, il dit surtout, prenez garde à Absalom. Ne faites pas de mal à mon fils, ne faites pas de mal à Absalom, parce que je l'aime, ce sera toujours mon fils, peu importe ce qu'il m'a fait. Et à ce moment-là, Joab, le chef de l'armée de David, lui, lorsque des messagers vont lui dire « Absalom est pris, sa chevelure est prise dans un térébinthe, il est coincé », à ce moment-là, Joab, apprenant ça, il vient, il prend 3 lances et il lui plante dans le cœur, des jeunes gens arrivent derrière et il termine Absalom. Et quand David apprend ça, il pleure, il est effondré. Mon fils, Absalom, mon fils. Et après avoir été trahi, il apprend encore la mort d'un de ses fils. Quelque temps plus tard, alors que David va aller chercher l'arche de Dieu et qu'il va la ramener, il est dans la joie, 2 livre de Samuel. Et puis là, Dieu, il danse dans la présence de Dieu et Michal, qui est une femme qui a un véritable... Elle aime David, mais elle a un gros problème spirituel, cette fille, c'est pas possible. Elle est vraiment dans la lignée de son père. Et elle est là, elle est sur sa hauteur. Elle regarde David qui se réjouit simplement de la présence de Dieu. Elle est là, elle le regarde de haut et elle commence à nourrir dans son cœur. Elle nourrit du mépris pour lui. Et au-delà de David, c'est pas David qu'elle méprise seulement, c'est Dieu lui-même. Et Dieu va la frapper de stérilité. Et Michal n'aura jamais d'enfant. Elle est frappée de stérilité parce qu'il fallait aussi que surtout pas un descendant de Saül arrive sur le trône de David. Donc Dieu savait ce qu'il faisait. Mais ça fait des situations. Ah, c'est tendu. Et puis, au soir de la vie de David... Et je vous passe là, je vous passe aussi les combats avec les Philistins. Il a eu plusieurs fois des combats, même si Dieu l'en a rendu vainqueur, alléluia. Au soir de sa vie, un autre de ses fils, Adonijah, n'a rien trouvé de mieux à faire que d'imiter l'exemple de son frère Absalom. Il va prendre, comme si ça ne lui avait pas servi de leçon, il va prendre aussi des chars, des cavaliers, et il va aussi tenter d'usurper la royauté. Ça n'ira pas aussi loin qu'avec Absalom, mais il va quand même tenter d'usurper la royauté. Et puis Salomon, qui devient roi parce que c'est ce que Dieu a ordonné, Salomon va faire exécuter Adonijah. Ça, David ne le verra pas, parce que David mourra juste avant que Salomon exécute Adonijah, mais c'est encore un fils de David qui tue un autre fils de David. Quand un gars qui n'a pas de problème dans la vie me dit « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien », il restaure mon âme. Je lui dis, mon grand, t'es gentil, tu sais pas ce que je traverse. Tu sais pas de quoi tu parles. Mais quand cet homme-là me dit, il restaure mon âme, je pense qu'il a des choses à m'apprendre. Et c'est là que du coup, il restaure mon âme va prendre toute sa valeur. Si lui a été restauré, pas de problème, hein. N'importe qui peut vivre une restauration miraculeuse de Dieu, quel que soit le contexte. Bon, s'il n'y avait S'il n'y avait que nos blessures, s'il n'y avait que nos souffrances, les injustices dont nous avons été victimes, ce serait même simple. Le problème, c'est que nous avons le chic pour tout compliquer. Parce que, frères et sœurs, nous n'avons pas que des blessures. Nous avons aussi notre propre nature pécheresse. Et nous avons aussi le chic de tout compliquer. David, comme vous, comme moi, avait aussi ses propres péchés. Il a eu des moments d'égarement sérieux. 1 Samuel 27, on en parlera bientôt, pour vous montrer que c'était un faux refuge, c'était un faux chemin de restauration. Sous la pression de Saül, alors que Dieu l'a délivré déjà deux fois, David craque sous la pression d'une seule pensée et il se dit, il n'y a vraiment pas d'autre solution pour moi que d'aller me réfugier au pays des Philistins. Il va voir le roi Achish. Achish lui offre Tsiklag. C'est un faux refuge, c'est une fausse, une pseudo-restauration et c'est une fuite. Il pense qu'il aura la paix, mais en réalité, il se rend au Dieu, à Israël, son peuple. Il fait le jeu de l'ennemi. Dieu, à ce moment-là, n'est plus son berger. Et il y a la catastrophe de Tsiklag, les Amalécites viennent, tout finit par s'effondrer, tout le plan qu'il a échafaudé pendant 16 mois en espérant avoir la paix, tout s'effondre en l'espace de quelques instants. Bien sûr, il va revenir à Dieu par la repentance, il va prendre l'éphod, il va aller consulter Dieu, il va revenir à Dieu, il va se repentir. Oui, bien sûr que quand on demande pardon à Dieu, il nous pardonne. Amen. Amen. Quand je demande pardon à Dieu, il ne me pardonne pas dans 3 semaines. Quand je lui demande pardon, il ne me pardonne pas 50% maintenant et 50% plus tard selon comment je... Non, non. Le pardon de Dieu est immédiat. Amen. Il est instantané. C'est tout de suite et à 100%. Parce que Jésus a payé le prix fort et il a tout payé et il m'a acquis le pardon. Quand je vais chercher le pardon et que je lui demande pardon, le pardon est acquis à 100% et tout de suite. Et je le reçois à 100% et tout de suite. Amen. Mais le péché, on sait très bien qu'il fait des dégâts dans les cœurs. Il y a des choses qui ont été cassées. Il y a des ruines. Et les ruines ne viennent pas seulement des autres. Les ruines viennent aussi de nous parce que nous avons... pas suivi les sentiers de la justice, nous n'avons pas suivi le bon berger. Donc pendant 16 mois ici, il va falloir reconstruire derrière, parce qu'il y a des ruines dans le cœur de David. Et puis ensuite, il a eu la merveilleuse idée, alors qu'il était bien installé. Il était installé dans son règne, ça baignait pour lui. Il avait suffisamment de conseillers, de chefs d'armée, il avait suffisamment d'hommes. Et puis à ce moment-là, tout le monde est parti au combat. Mais pas lui. Vous savez, frères et sœurs, les moments où vous êtes le plus en danger. Je suis pas un apôtre de la souffrance et je fais pas l'apologie de la difficulté ou de l'épreuve. Mais je peux vous dire quand même quelque chose, que le moment où vous êtes le plus en danger dans votre vie, c'est pas quand vous avez des problèmes, c'est quand vous n'en avez pas. Parce que là, David s'est relâché, ça a été fatal. Il a péché et il a été couché avec Bathsheba. Et quand Bathsheba vient lui dire, parce que les brebis que nous sommes, non seulement ont le chic de faire des énormes boulettes, mais en plus, au lieu de venir tout de suite à Dieu pour régler le truc, tout de suite, eh ben non, il a fallu qu'il essaye de régler le truc et d'arranger son péché par lui-même. Donc, quand Bathsheba vient le voir et qu'elle lui dit, David, je crois qu'on a un problème, je suis enceinte. À ce moment-là, David... il n'a rien trouvé de mieux à faire que de se dire, je vais faire revenir ton mari, je vais le faire boire, il aura un bon petit coup dans l'aile, et puis quand il aura bien bu, il ira coucher avec toi, et puis comme ça, dans 9 mois, on pensera que l'enfant était de lui. Oh. C'est tordu ça, hein? Puis comme Ouri est un homme droit et intègre, il dit, tu sais, Seigneur David, mon Seigneur, mon roi, tu sais David, je ne pourrais pas aller me réjouir avec ma femme alors que mes hommes sont au combat. Et David, il est bien embêté parce que Ouri ne va pas voir sa femme. Donc il va donner, il faut se débarrasser du problème. Donc il va donner des instructions pour que Uri soit placé au plus fort de la bataille. C'est une espèce de meurtre commandité, histoire qu'on lâche Uri au plus fort de la bataille et que les proches se retirent. Et forcément, Uri le Hessien va mourir sous les traits de l'ennemi au champ de bataille. Comme ça, il se dit, ben personne ne saura rien. Quelque temps plus tard, de Samuel 24, un chronique 21, il est bien installé dans son règne, et il y a quelque chose d'extrêmement dangereux qui commence aussi à le guetter, ça s'appelle un orgueil naissant. Et là, quand il commence à faire le dénombrement de son armée, c'est pas juste parce qu'il veut savoir si 2 et 2 font toujours 4 et combien il y a de chrétiens dans l'église, etc. Non, il y a un orgueil naissant qui monte, et il s'aperçoit qu'il a 500 000 hommes en Juda, 800 000 hommes en Israël. David arrive à être le plus grand roi et il commande une armée de 1 300 000 hommes. Et là, le Seigneur est obligé de le rectifier comme il faut et la peste commence à passer dans Jérusalem. 70 000 hommes meurent en ce jour parce que David commence à avoir des chevilles qui commencent sérieusement à enfler. Et ça, dans le cœur, ça pique, ça fait mal, ça demande aussi. Donc vous voyez que quand David dit, il n'y a pas seulement les injustices, il y a aussi les dégâts dans son cœur et dans les circonstances par ses propres péchés. Quand David dit, il restaure mon âme. Je pense que si David a été restauré, n'importe qui, c'est le but de tout ce que je vous dis là, n'importe qui, dans n'importe quelle situation de vie, n'importe quelle circonstance, peut vivre effectivement une belle et une puissante restauration. Oui, la restauration est possible, c'est bête à dire, mais combien de fois l'ennemi de nos âmes vient et il nous dit, de toute façon pour toi c'est fini, le Seigneur peut plus te pardonner. De toute façon, avec ce qui t'est arrivé, comment veux-tu avoir un avenir? Regarde l'âge que t'as, regarde dans quel état tu es, regarde ci, regarde ça, regarde bien les circonstances, regarde bien ce que t'as fait, regarde bien ce qu'on t'a fait, qu'est-ce que tu veux espérer? Allez, tais-toi, reste dans ton coin, fais comme si de rien n'était, fais un sourire à tout le monde encore dimanche, et puis voilà, puis attends que Jésus vienne te chercher, en espérant que tu sois sauvé, parce qu'au final, t'en es pas si sûr que ça finalement. La restauration, peu importe ce qu'on a vécu, est possible. Amen. C'est David qui, c'est pas Stéphane qui vous le dit, c'est David qui vous le dit. Quand il parle de restauration, à quoi est-ce qu'il pense? David a été berger. Avant d'être oint pour roi par Samuel, David était dans les champs, il faisait déjà paître les troupeaux. Et il avait effectivement un cœur de berger. Il était berger. Et quand il dit « l'Éternel est mon berger », il sait très bien de quoi il parle et il pense à beaucoup de situations. Et il y a une situation particulière que les bergers connaissent, c'est qu'une brebis est dans l'incapacité total, écoutez-moi bien, vous vérifierez, peut-être j'ai trouvé, peut-être un jour, si c'est possible, dimanche prochain, je vous mettrai une vidéo. Une brebis, quand elle a reçu un choc et qu'elle a été renversée, qu'elle se retrouve les quatre pattes en l'air, une brebis est dans l'incapacité totale de se remettre sur pied. Elle reste sur le dos. Et en restant sur le dos, il y a un phénomène dans son organisme qui se passe, c'est que l'air va s'accumuler dans ses intestins et qu'elle risque l'asphyxie. Une brebis qui est sur le dos parce qu'elle a reçu un choc se retrouve les quatre pattes en l'air et à ce moment-là, ses jours sont comptés parce qu'elle ne peut plus respirer convenablement. Et il faut absolument que le berger vienne, la relève, la retourne et qu'il la remette sur pied. Et quand David dit « Il restaure mon âme », David, à quoi il pense ?« Chouv » en hébreu, « chouv », qui signifie « retourner, remettre, réparer, ramener ». Une brebis renversée est incapable de se retourner, de se remettre seule sur pied, je vous ai mis ici, parce que c'est l'asphyxie qui la guette. La brebis court un véritable danger. Combien de fois on dit « nous aussi » Ah, tu sais, ce frère, tu sais, cette sœur, dans la chair, dans la foi, la famille, peu importe. Ah, tu sais, cet ami, tu sais, mon mari, ma femme, tu sais. Le jour où il m'a dit ça, ah, ça m'a retourné. Ah, ça m'a mis KO. Et en fait, c'est un véritable uppercut qu'on s'est pris, non pas dans l'estomac, mais qu'on s'est pris dans l'âme. Et on se prend un choc à l'âme, et à ce moment-là, paf, la brebis, elle est retournée, elle se retrouve les pattes en l'air. Et là, on dit, ah ben, tu sais, quand il m'a dit ça, ça m'a mis KO. Comment il a pu me dire ça? Comment t'as pu me faire ça? Et là, David dit, tu vois, Stéphane, tellement de fois dans ma vie, des circonstances m'ont mis KO, m'ont retourné, mais le Seigneur m'a remis sur pied. C'est ça qu'il est en train de me dire. Combien de fois, Stéphane, tu sais, j'ai été cassé, combien de fois on m'a cassé, littéralement cassé, mais le Seigneur m'a réparé. Combien de fois ça m'est arrivé parce qu'en plus d'être blessé, j'avais un caractère qui n'était... Ah, j'ai fait pire que mieux. Et combien de fois ça m'est arrivé de me perdre, mais le bon berger m'a ramené. Mes propres péchés, David est honnête. Et il dit, mes propres péchés aussi ont fait du dégât en moi. Mais il m'a réparé. Quand il parle de l'âme, nefesh en hébreu, psouché, psyché en grec, nefesh en hébreu, ça désigne notre être intérieur. C'est notre vie ici, notre vie intérieure. C'est le siège de nos émotions, le siège de nos passions. Nous avons conscience des autres âmes, nous avons conscience aussi de nous-mêmes. Par notre esprit, nous sommes des êtres tripartites. Par notre esprit qui était mort, coupé de Dieu par le péché, le Saint-Esprit, lorsque nous avons entendu la parole, nous nous sommes convertis, donnés à Dieu, nous avons confessé nos péchés, nous avons accueilli Jésus-Christ. Et dans cette démarche de repentance, de foi, de conversion, le Saint-Esprit nous a fait naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance, cette résurrection, cette régénération par la parole et par l'esprit, dit Pierre, ça c'est la nouvelle naissance, c'est spirituel. Et par mon esprit, je suis en communion avec l'Esprit de Dieu. J'ai une âme, par mon âme, j'ai conscience de moi-même, j'ai conscience des autres âmes. Et là, il y a la question des impressions, des émotions, du ressenti, les passions, les désirs, les sentiments, tout ce qui est là à l'intérieur de mon âme. Et puis ensuite, par mon corps, avec mon corps, je suis en connexion avec le monde matériel. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, par les cinq sens, je suis en contact avec le monde physique et matériel. Et mon âme, c'est pas l'esprit, c'est pas le corps, mon âme, c'est mon être intérieur. Et c'est là que vont se situer les émotions. C'est là que vont se situer aussi les passions, les désirs. Désirs qui, malheureusement, ont été déréglés par la présence du péché. C'est là aussi, dans mon âme, nefesh, ça désigne aussi le siège, l'activité de ma volonté. Et je suis désolé de mon caractère. J'ai aussi, non pas seulement des blessures, j'ai aussi une volonté et j'ai aussi un caractère. Et cette âme, évidemment, Genèse 2:7, elle est merveilleuse, elle est belle, c'est une création de Dieu. Il n'y a pas de souci, puisqu'il est écrit, si vous lisez Genèse 2:7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, donc il lui fabrique un corps. Et il est dit ensuite que le roi de Dieu, l'Esprit de Dieu, souffla dans ses narines un souffle, roi, souffle de vie, et l'homme, qui n'était que corporel, devint un être vivant, mais en réalité devint nefesh, devint une âme vivante. Et depuis Adam, chaque naissance dans toute l'histoire de l'humanité, à la surface de cette terre, il y a toujours ce miracle de ce que chaque corps, il y a une âme vivante à l'intérieur. L'âme est une création de Dieu et c'est un miracle. Quand vous avez, mes sœurs, vous avez enfanté, ben à l'intérieur, il y avait pas seulement un corps, à l'intérieur, il y avait une âme avec une conscience de soi, une conscience des autres, avec tout ce que l'on décrit là. Alors l'âme, elle est belle, elle est merveilleuse, merci Seigneur. Elle a parfois des envolées magnifiques. Puis à d'autres moments, eh bien l'âme, elle est extrêmement fragile. Elle est fragilisée, elle est vulnérable parce qu'elle a goûté à la présence du péché. Et elle est belle, mais elle est fragile, elle est vulnérable. Et par moments, les autres âmes, parce que j'ai mes propres péchés, les autres ont leurs propres péchés. Et à ce moment-là, il y a des moments, comme dans la vie de David, ce que je vous ai montré. Bah ! Certains, parfois, ont été, peut-être tu ne le sais pas, peut-être certains sont encore retournés. Peut-être à cause de toi. Toi, tu es peut-être retourné à cause des autres. Et cette âme qui malheureusement a été corrompue par le péché a une volonté, un caractère, une émotion, un ego, des désirs qui peuvent malheureusement tout compliquer si l'âme n'est pas totalement, j'insiste, on en reparlera, totalement soumise au berger. Tant que l'âme blessée n'est pas totalement soumise au berger, la restauration va être très compliquée. Mais il faut être conscient de toutes ces choses. Et là, j'en arrive au troisième point de mon message. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Mais je veux vraiment insister sur ce point, bien-aimé. Il restaure ton âme. David dit bien, il restaure mon âme. Il me conduit dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Demandez à tous les chrétiens de France et de Navarre ce que signifie il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous allez avoir du mal à avoir les réponses. On le connaît par cœur. Mais quand il est question des sentiers de la justice, concrètement, ça veut dire quoi? Trois choses essentielles. Il n'y a que Dieu qui peut restaurer. Et notre âme, parce qu'elle a besoin. L'âme humaine, elle est comme ça, mon frère, ma sœur. Ton âme, la mienne, on est tous les mêmes. L'âme humaine, elle a des réflexes. Elle a des échappatoires. L'âme humaine, nécessairement, c'est comme quand vous cherchez, vous êtes sur votre GPS, vous cherchez les grands axes, vous cherchez les grands boulevards. Le Seigneur ne nous conduira, dans le cadre de la restauration, ne te conduira jamais sur le boulevard de la facilité. Il ne te conduira jamais sur l'autoroute de tous ces réflexes de l'âme. Et nous avons nos réflexes. Le premier réflexe de l'âme humaine, qu'elle soit victime ou qu'elle soit coupable, ça s'appelle le déni. Et c'est une grave erreur de penser, vous savez, quand on dit « oui, bon, allez, ça va, c'est pas si grave, on va peut-être pas en parler sans s'étendre, frère, on va peut-être passer à autre chose. » C'est une façon, consciente ou inconsciente, une façon pernicieuse de fuir sa blessure, de ne pas la regarder en face. « Non, je suis pas blessé, je vais très bien, je gère, merci. » Et puis on se dit qu'avec le temps, de toute façon, comme chantait un vieux chanteur, avec le temps on va, tout s'en va. Il y en a qui sourient. Si vous avez la référence, c'est que, bon, on se comprend, hein, voilà. Les jeunes, ils disent, qu'est-ce que c'est ça? Puis il y en a d'autres qui disent, ah oui, 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 si vous connaissez, désolé, c'est que vous avez passé un cap, hein. De rien. Le temps, bien-aimé, n'efface jamais la douleur. Le temps C'est une erreur de penser que le temps va atténuer la douleur jusqu'à ce qu'elle disparaisse, jusqu'à ce qu'elle guérisse. On peut essayer de l'enfuir, on peut mettre une couche sur la blessure, vous pouvez mettre sur votre blessure une couche d'apparence, une couche de tradition, une couche de religiosité, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre une couche d'activité, mettez 3-4 activités dans l'église en plus par-dessus, votre service ne vous restaurera pas. Toute blessure qui n'est pas traitée par le Saint-Esprit va nécessairement s'infecter. La nature me l'enseigne. Tout ce qui n'est pas traité va s'infecter. Après l'infection, pardon, vient la putréfaction. Et après la putréfaction, pardon, vient l'amputation. C'est la nature, c'est mon corps qui me l'enseigne. Le Seigneur nous a créés ainsi, c'est pas pour rien. Et c'est une grave erreur de penser que le temps peut atténuer les choses jusqu'à ce que ça disparaisse. Le temps, bien-aimé, ne cicatrisera jamais vos plaies. Le temps ne guérira jamais un cœur blessé. C'est pas possible. Le temps ne me fera pas oublier la peine, n'effacera pas la peine. Joseph était clair. Dieu m'a fait oublier. Dieu a effacé la peine de mon cœur. Le temps ne nous restaure pas. Nos amis, même chrétiens, ne nous restaurent pas. Ton épouse ne te restaurera pas. Tes parents, ton pasteur ne te restaureront pas. Nos amis nous aiment, logiquement. Ils vont avoir effectivement envers nous de la bonne volonté. Ils peuvent me réconforter. Ils peuvent me guérir. Ils ne peuvent pas me guérir. Ils peuvent me réconforter, mais ils ne peuvent pas me guérir. Ils ne peuvent pas relever mon âme. Pourquoi ? Parce que eux-mêmes sont aussi une âme vivante, fragile, vulnérable, blessée, corrompue par le péché. À moins que mes amis aient vraiment trouvé les sentiers de la justice et qu'ils aient expérimenté une authentique restauration par le Saint-Esprit, dans ce cas-là et dans ce cas-là seulement, ils peuvent peut-être faire un tout petit truc pour vous. Vous montrez le chemin, mais ils ne vous restaureront pas. Parce que le chemin de la restauration charge à chacun de l'emprunter. Mais si mes amis ont effectivement expérimenté une authentique restauration par le Saint-Esprit, ils pourront te dire, je te déconseille, non. Ah, surtout ne t'embarque pas dans cette voie-là, tu sais, j'ai essayé, moi, Par contre, tu vois ça, ça s'appelle pas un boulevard, ça s'appelle un sentier. Ta marge de manœuvre est extrêmement étroite dans un sentier. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu mets tes pas dans l'empreinte des pas du berger. Tu sais, moi, c'est ce que j'ai fait. Le Seigneur m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Ils peuvent vous conseiller, mais pas vous restaurer. Ça va ? Si on n'est pas guéri nous-mêmes, on ne peut même pas conseiller les autres. Et c'est là que nos amis sont bien gentils, mais bien des fois, ils nous disent bien des bêtises. Et puis, comprenons aussi, bien-aimés, que si le temps n'efface rien, si nos amis ne nous restaurent pas, nous ne pouvons pas nous restaurer nous-mêmes. La brebis n'a pas la capacité de se remettre sur pied toute seule. Nous ne pouvons pas nous restaurer nous-mêmes. Et là, c'est très important de ne surtout pas écouter son âme. Le propre d'une brebis, frères et sœurs, à part le fait qu'elle est mignonne et bien gentille, la brebis a 2-3 caractéristiques. Je suis désolé, c'est un peu la mauvaise nouvelle du message. Le Seigneur, dans sa parole, ne nous a pas dit « vous êtes des aigles », il nous a dit « vous êtes mes brebis ». Le propre d'une brebis, c'est qu'elle est myope. Je suis désolé. La brebis, pardon, elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez ou le bout du problème qui est devant elle. Le propre d'une brebis, c'est qu'elle est myope. Le propre d'une brebis, puisqu'elle est myope, c'est qu'elle est incapable de se diriger toute seule. il faut absolument qu'il y ait un berger, un troupeau, et que le troupeau, la brebis avec le troupeau, suive le bon berger. Le propre d'une brebis, c'est de s'égarer. Elle est championne dans un domaine, championne du monde, médaille d'or chaque année, toutes catégories confondues, se perdre soi-même. Ça, c'est la brebis. Le propre d'une brebis, c'est qu'elle est myope. Le propre d'une brebis, c'est de s'égarer, c'est de se perdre. La brebis, c'est pour ça que Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix, V-O-I-X, et elles suivent mes voix, V-O-I-E-S. Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Le berger appelle ses brebis, elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Une brebis, elle est faite pour un truc. Suivre le berger, point. Rien d'autre. Une brebis n'est pas faite, pardon, hein. Une brebis n'est pas faite pour prendre des décisions. Une brebis n'est pas faite pour décider. Une brebis n'est pas faite pour prendre des initiatives. Une brebis est faite pour suivre. Une brebis est faite pour obéir. Et là, rien que ça à l'intérieur, ça commence déjà à te gratter avec ce que je viens de dire. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas que des blessures, tu as aussi une âme néfèche avec une volonté, un caractère et des désirs. Et tant qu'on n'a pas renoncé à ça pour prendre notre âme, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, je le leurrai toujours. Et David, il prend son âme, les fils de Corée prennent leur âme, et psaume 42, et il l'amène au berger. Psaume 103, mon âme, pourquoi t'as battu ? Loue Dieu, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il parle à son âme, il prend son âme et il amène son âme au berger de son âme. Et tant que notre âme n'a pas été amenée au pied du berger, malheureusement, tout est compliqué. Et vous savez, avant, je vous ferai plusieurs messages dans les dimanches qui viennent pour considérer les vrais et les faux chemins de restauration, parce que avant de trouver vraiment le vrai chemin de restauration, il faut d'abord avoir renoncé, il faut avoir identifié et renoncé à des faux chemins, plutôt des faux boulevards, des mauvaises autoroutes qui m'emmènent dans la facilité et malheureusement dans l'impasse. La brebis n'est pas faite pour décider. La brebis ne sait pas comment faire pour atteindre le vert pâturage qui va épanouir son âme. Elle ne connaît pas le chemin des verts pâturages, le chemin des eaux paisibles. La paix de Dieu, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, plus grande, plus forte que tout ce que je vis, que tout ce que je traverse, que tout ce qu'on m'a fait, que tout ce que moi j'ai pu faire. Cette paix, ces eaux paisibles. La brebis n'en connaît pas le chemin. Seul le Saint-Esprit en connaît le chemin, par la parole. Et puis les sentiers de la justice, connaît pas. Donc David dit, il restaure mon âme, il me conduit, il me dirige, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers les eaux paisibles, il me conduit dans les sentiers de la justice. La brebis croit qu'elle sait, mais en vérité, elle ne sait rien du tout. Plus le temps passe, plus dans ma vie, je suis conscient d'une chose, frères et sœurs. Et ce n'est pas une phrase en passant, je suis sérieux. Plus je suis conscient d'une chose, c'est que sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je n'ai rien. Sans lui, je ne peux rien. Ça, c'est ma conviction aujourd'hui. Et j'ai besoin d'apprendre à me taire, à écouter, à obéir, à suivre, afin de ne pas fabriquer des plans, des solutions qui vont tout compliquer et qui vont ralentir le processus de guérison. Je termine avec ça, c'est un peu plus long ce matin, désolé, mais il fallait vraiment que je brasse quand même voilà, un portrait général avant de rentrer dans des axes plus précis dans les dimanches qui viennent. Mon frère, ma sœur, peu importe ce que tu as vécu, ce que tu as traversé, ne surtout jamais écouter ton âme. La brebis est incapable de se diriger. qu'est-ce qui va me restaurer? Bien sûr, le Saint-Esprit qui a inspiré la parole. Et voilà quelques textes, mais il y en a bien d'autres dans lesquels on retrouve le mot « restaurer » dans l'hébreu « chouv ». La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure, chouv, elle restaure l'âme, psaume 19. Et c'est seulement par la parole de Dieu que je vais être aiguillé sur le bon chemin, de sorte que j'expérimente cette restauration par l'esprit, par la parole. Mon âme, psaume 116, on ne sait pas qui a inspiré le psaume 116, l'auteur a été inconnu. Mais par contre, ce qui est dit dedans est merveilleux. Mon âme, retourne, chouv, à ton repos, car l'Éternel, c'est lui qui t'a fait du bien. Et là, le psalmiste ne dit pas « Oh ben, je vais avoir un petit moment de soulagement. Oh, je vais me sentir un peu mieux. » Vous savez, bien-aimés, beaucoup de frères et sœurs, je le dis avec beaucoup de respect, je le dis avec beaucoup de compassion, ne vivent pas la dimension de vie que Dieu voudrait mettre dans leur âme. Les âmes sont chargées, les âmes sont agacées, les âmes sont abattues, les âmes sont vives en dents de scie, c'est le principe de l'âme. Et par moment, par la grâce de Dieu, on a eu un bon moment avec Dieu cette semaine. Ah, ça m'a fait du bien la réunion. Ah, ça m'a fait du bien le culte. Mais le Seigneur n'a pas dit, l'auteur ici n'a pas dit à son âme, tu vas découvrir un moment de paix. Non, il lui a dit, retourne à ton repos. Parce que la norme générale dans la pensée de Dieu, la norme générale, c'est que ton âme soit toujours en paix. Toujours joyeuse, toujours tranquille, que ton âme soit toujours bien. Et par moments, il y a des moments très compliqués où mon âme peut être retournée sans dessus dessous. Il y a des choses terribles qui peuvent arriver. Mais ça, ce sont les exceptions. Et malheureusement, pardon, pour beaucoup d'enfants de Dieu, pour beaucoup de pasteurs, l'âme ne va pas bien et de temps en temps, ça va un peu mieux. Alors que dans la pensée de Dieu, tu vas bien tout le temps. Et puis de temps en temps, il y a des moments compliqués. Et il n'a pas dit « découvre le repos ». Il a dit « retourne à ton repos » parce que c'est de là que tu n'aurais jamais dû partir. Je vous en parlerai aussi prochainement les mardis dans le cadre de la prière. Mon âme, chouv, retourne à ton repos, restaure-toi dans ton repos parce que l'Éternel t'a fait du bien. Le Seigneur est aussi appelé bien sûr celui qui restaure, chouv, celui qui restaure les chemins. Il est le réparateur des brèches, c'est lui et seulement lui, une fois de plus, qui va le faire et qui peut le faire. Et c'est simplement lorsque j'ai compris qu'il va y avoir des faux chemins de restauration, lorsque j'ai compris les mécanismes de l'âme, je vais apprendre, pardonnez-moi de le dire ainsi, je vais apprendre à me méfier de moi-même. Je sais que notre âme nous dit spontanément, à partir de maintenant, méfie-toi d'un tel. Méfie-toi de lui, méfie-toi d'elle, sans te manquer de respect, mon bien-aimé. La seule personne de qui il faut te méfier aujourd'hui, c'est de toi-même. Parce que ton plus gros danger, c'est pas les autres. Ton plus gros danger, ce seront les réactions, les chemins par lesquels tu vas pouvoir passer ou pas passer dans les temps qui viennent. Alors, peu importe le contexte, voilà, c'était mon message pour ce matin. On va se recueillir.